Vous écoutez
RMC. RMC, 5h-6h, Charles Matin,
Pierrick Bonneau.
Oh mais c'est déjà l'heure bientôt, 5h sur RMC, bon réveil, bienvenue à tous, c'est l'été, nous sommes ensemble jusqu'à 6h, je vous donne le programme, dans 10 minutes on va revenir sur la petite phrase du porte-parole du gouvernement hier à la sortie du Conseil des ministres. Olivier Véran appelle les Français à multiplier les petits gestes pour économiser de l'énergie, on risque de devoir se passer du gaz russe assez rapidement, vous le savez. Alors le gouvernement appelle les Français à faire des efforts, débrancher la box quand on n'est pas là, baisser le chauffage à la maison, mais est-ce vraiment à vous, à moi, à nous de faire des efforts et surtout est-ce que ça va suffire? Venez en débattre avec nous au 3216 ou sur l'appli RMC Onglet Direct Studio dès maintenant, on vous attend. Et puis avant 6h aux alentours de 5h40, on va vous expliquer l'une des mesures discutées en ce moment à l'Assemblée pour protéger le pouvoir d'achat des Français, la résiliation des abonnements en ligne en un seul clic pour éviter les galères, plus de courriers recommandés, plus de démarches à n'en plus finir. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Venez nous raconter vos difficultés pour résilier vos abonnements, vous connaissez le chemin. Vous composez le 3216 ou vous nous écrivez sur l'appli RMC Onglet Direct Studio. Il est bientôt 5h, la météo. Bonjour Anthony Kaczmarek.
Bonjour Pierrick, bonjour à tous.
La canicule est derrière nous, ça y est?
Alors quasiment, reste encore 14 départements en vigilance orange, les départements alsaciens, ceux de la vallée du Rhône jusqu'aux Alpes et la Méditerranée. L'Alsace devrait sortir de la vigilance à 6h tout à l'heure, mais les 12 départements du sud-est devraient y rester parce que c'est là qu'il va encore y faire le plus chaud. Dans l'après-midi, vous aurez par exemple 34 à Grenoble, 36 à Marseille et Perpignan et encore 38 à Nîmes. Partout ailleurs, il fera chaud aussi, mais ce sera beaucoup plus raisonnable, avec par exemple 30 degrés à Nantes et à Besançon, 29 à Strasbourg et à Biarritz, 28 à Paris, 24 à Abbeville, 23 pour Brest. Et pour Lille, la journée va se passer sous le soleil pour quasiment tout le monde, à peine quelques passages nuageux sur la moitié nord. Des nuages qui seront un peu plus nombreux dans l'après-midi, près des frontières du Nord et jusqu'en Île-de-France, avec éventuellement une ou deux gouttes, notamment vers les Ardennes.
On va pas se plaindre.
On va pas se plaindre, ça fera du bien. Et puis malheureusement, ça c'est une mauvaise nouvelle, le Mistral va reprendre dans la vallée du Rhône jusqu'à 50 km/h en rafale.
Mauvaise nouvelle pour les incendies qui continuent toujours à ravager la Gironde et d'autres régions comme la Bretagne, mais ça se calme un petit peu, en tout cas en Gironde. On va y revenir toute la matinée sur RMC. Bon réveil, 5h.
Jeudi 21 juillet,
l'info sur RMC.
C'est le journal signé Rémy Inc. Bonjour Rémy.
Bonjour. Reconstruire et replanter, le président de la République en déplacement en Gironde hier au chevet de la forêt décimée par les incendies. Emmanuel Macron a rendu hommage aux pompiers. Comment réduire notre dépendance au gaz russe pour éviter une crise énergétique cet hiver? La Commission européenne a fait des propositions hier. Et puis le Tour de France, 18e étape aujourd'hui, Pogacar va repartir à l'attaque.
Le président de la République annonce un grand chantier national pour replanter la forêt à Landiras et à la Teste de Buch.
Oui, Emmanuel Macron en déplacement en Gironde hier sur le front des incendies. Le chef de l'État a admis qu'il faudra davantage de canadairs dans le futur. Une flotte qui doit être, selon lui, augmentée au niveau européen avec une nouvelle filière industrielle pour construire les appareils. Emmanuel Macron qui a également rendu un hommage appuyé aux pompiers qui se battent contre les feux.
Vraiment, nos pompiers sont des héros absolus qui risquent leur vie chaque jour. En tout cas, je veux ici vous dire la solidarité de la nation et mon immense fierté en tant que président de la République, pas simplement d'être à vos côtés, mais de voir cette force d'âme parce qu'elle est là chez nos élus, chez nos compatriotes, chez nos pompiers, toutes celles et ceux qui sont mobilisés. C'est une immense fierté. Vous avez résisté, vous êtes en train de battre le feu et donc nous serons là dans la durée.
Voilà pour ces déclarations du président de la République hier. Notons que l'homme qui avait été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de Landiras a été libéré hier, mis hors de cause. Sur ces deux incendies en Gironde, ils ont peu progressé hier, 300 hectares tout de même détruits ces dernières heures. Mais le bilan est plutôt positif. En attendant de reconstruire, ce sont des milliers d'arbres qui sont partis en fumée. Ces arbres, principales ressources évidemment de toute une filière. Mathieu Limongi.
Sur le bord de la route, des arbres noirs calcinés de haut en bas et désormais inexploitables. Sur le plan économique, les propriétaires de ces parcelles de forêt dévastées sont les principales victimes, comme Gérard. Ces derniers jours, il a perdu plusieurs dizaines d'hectares.
C'est une perte moyenne de 400 euros l'hectare. Si vous avez 50 hectares de brûlés, vous faites le calcul, 4 fois 5, 20, ça fait 20 000 euros par an. Si les arbres ont 10 ans, ça fait 200 000 euros. Une grosse perte financière. La difficulté, c'est de trouver l'argent pour remettre en état. Ça fait toujours mal au cœur, quoi.
Remettre en état, c'est reboiser et ça coûte cher. Sébastien Barré, conseiller forestier et membre de la Chambre d'agriculture de Gironde.
On est à 1 000 à 1 500 euros l'hectare de reboisement en temps normal. Là, il va falloir peut-être broyer, sortir les arbres encroués. Il y a des surcoûts qui vont faire que les reboisements vont coûter plus cher que la normale.
Et avec les incendies et l'interdiction d'accès aux massifs forestiers, c'est l'ensemble du secteur qui est à l'arrêt.
Une entreprise qui ne tourne pas, une industrie qui ne tourne pas, des entrepreneurs avec des machines qui ne tournent pas, c'est un coût parce que c'est des machines qui ne rapportent pas. Et une forêt qui ne produit pas, c'est un manque à gagner.
Malgré tout, la filière se veut optimiste. La fin des incendies devrait provoquer un regain important de l'activité économique.
Le parquet de Quimper a ouvert deux enquêtes sur les incendies qui ont ravagé la lande bretonne dans les monts d'Arrée. Les deux incendies déclenchés lundi sont désormais fixés à environ 95%. L'ensemble des habitants évacués sont désormais autorisés par le préfet à rejoindre leur domicile.
À 5h03, une annonce de la Commission européenne, Rémi, un plan d'urgence pour freiner notre dépendance au gaz russe d'ici mars 2023.
Il ne s'agit pour l'instant que de propositions. Les États membres devront ensuite les appliquer s'ils le souhaitent. Bruxelles propose que chaque pays réduise de 15% sa consommation de gaz russe. Les économies des 27 pays de l'Union européenne seraient évidemment impactées, Alexandra Sirgoin.
Objectif de la Commission, réduire d'un tiers les importations européennes de gaz russe. Pour cela, Bruxelles préconise des mesures contraignantes, libres à chaque pays membre de s'en inspirer. Tout d'abord, réduire de 15% la consommation de gaz par pays. Ensuite, limiter le chauffage et la climatisation dans les bâtiments publics et commerciaux dans la mesure du possible. Bruxelles souhaite également inciter les citoyens aux efforts en baissant d'un degré le thermostat cet hiver. Et surtout, la Commission souhaite cibler les industries en priorisant celles qui sont essentielles, comme l'industrie du médicament, au détriment, par exemple, du secteur automobile qui pourrait voir sa production ralentie en cas de pénurie de gaz. De son côté, l'organisation patronale européenne Business Europe prévient que des réductions imposées aux entreprises auraient des effets économiques désastreux.
RMC 5h04, deux enfants sont toujours hospitalisés à Rennes après avoir été blessés par des poneys dans un centre équestre près de Vitré. Mardi soir, 15 enfants et 2 adultes ont été blessés par ces animaux lors d'une sortie dans le cadre d'une colonie de vacances. Il semblerait qu'un défaut d'encadrement soit à l'origine de l'accident. Ambre le poivre.
Seule une centaine de mètres sépare le centre équestre du champ et c'est sur le chemin qui les relie que les enfants ont été blessés par les poneys. Une enquête judiciaire est en cours pour déterminer les causes de cet accident et déjà, les gendarmes s'orientent vers une insuffisance au niveau de l'encadrement. Pour les 25 enfants de la colonie de vacances, il aurait fallu 3 encadrants. Or, il n'était que 2 au moment de cette sortie, 2 jeunes femmes de 23 et 18 ans. Et puis, la vingtaine de poneys accompagnant le groupe n'était pas rattachée par une longe. Rien ne permettait donc d'assurer leur maîtrise, précise le procureur de Rennes. Malgré ces manquements, personne n'est encore mis en cause à ce stade, mais les investigations se poursuivent pour déterminer d'éventuelles responsabilités dans ce drame.
Un homme de 22 ans abattu par le GIGN hier. Il avait tué 5 membres de sa famille dans une maison de Douvres dans le département de l'Ain. Il y était retranché depuis mardi soir. C'est l'une des tueries familiales les plus meurtrières de ces dernières années en France.
Le Tour de France, Rémi. Ouais. Les Pyrénées en juge de paix.
Oui, deux hommes se livrent bataille en montagne en ce moment. Le maillot jaune, le Danois Jonas Vingegaard et le double vainqueur de la grande boucle, le Slovène Tadej Pogacar. C'est le deuxième qui a remporté la 17e étape hier à Péragude. Juste devant le premier qui reste leader. Pogacar, une personnalité plutôt appréciée du peloton qui attaquera sûrement à nouveau aujourd'hui, Kevin Morand.
Oui, selon Tadej Pogacar, quand il souffre, son visage ressemble à un sourire et il en affichait un large la semaine dernière, quelques minutes avant de perdre son maillot jaune. Un autre encore hier à Péragude au moment de lever les bras. Ni antipathique ni hautain, le Slovène est apprécié de ses compères Pierre Latour et Benoît Cosnefroy.
Ça va, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui est très gentil et qui a envie de jouer, tout simplement. S'il fait deuxième à l'arrivée, il fera deuxième en ayant joué.
Pogacar, un attaquant hilar qui, malgré ses 2 années de domination, reste l'acteur majeur d'un tour spectaculaire. Julien Jourdi, directeur sportif d'AG2R Citroën, a dit tyrambique.
Plutôt un garçon très agréable. Très souriant. Je pense qu'il fait du bien au vélo. Je pense qu'il est assez ouvert. Mentalement, c'est un coureur qui est assez impressionnant et je pense que pour le vélo, c'est une vraie star et on en a besoin.
Dans sa vie personnelle, Pogacar peut aussi s'appuyer sur une compagne elle-même cycliste professionnelle. Urs Kazigard participera d'ailleurs au Tour de France Femmes dès dimanche.
Quand il arrive quelque chose de positif ou de négatif, on sait comment réagir et quoi dire parce qu'on l'a déjà vécu. C'est très important. Les coureurs sont là pour faire le show et Tadej n'est pas du genre à baisser les bras. Just
give up. Même si les 2 minutes 18 qui séparent Pogacar de Vingegaard au classement général paraissent presque rédhibitoires. Rien n'est jamais fini avec le Slovène. Son succès en 2020 l'a bien montré.
18e étape aujourd'hui de ce Tour de France, 143 km entre Lourdes et Hautacam, 3e et dernier volet du triptyque pyrénéen. Direction Eugene maintenant aux États-Unis pour les mondiaux d'athlétisme. Aurélien Tiercin, envoyé spécial d'RMC, nous y attend. Aurélien, good morning, bonjour. On croisait les doigts cette nuit avec deux chances de médaille françaises notamment, et puis finalement des déceptions et une frayeur.
Ouais, exactement, malheureusement, deux déceptions à l'instant. Alice Finot qui parvient à arracher un top 10 sur le 3000 mètres steeple, elle qui avait battu trois fois le record de France du 3000 steeple ces dernières semaines. Elle n'avait plus les jambes tout simplement dans cette finale, il fallait aller très très vite. C'est la Kazakh Nora Djerouto qui s'impose en 8 minutes 53, et rendez-vous compte, pour monter sur le podium, il fallait battre le record national d'Éthiopie. C'est l'Éthiopienne Getachew qui a parvenu à le faire deuxième et troisième. C'est une autre compatriote éthiopienne. Mélina Robert-Michon, un petit peu plus tôt au lancer du disque, a elle aussi terminé dixième simplement du concours. La vice-championne olympique de Rio n'est pas parvenue à lancer plus loin tout simplement, elle qui a fêté ses 43 ans hier. Et puis enfin sur le 800 mètres, là il y a des bonnes nouvelles. Les deux Français Gabriel Tual et Benjamin Robert se qualifient tous les deux pour les demi-finales, mais une petite frayeur pour Benjamin Robert qui a d'abord été le premier éliminé puisqu'il avait terminé 25e meilleur temps. Et puis grâce à la disqualification d'un Américain, Benjamin Robert a finalement pu retrouver le sourire. Lui qui avait déjà connu une élimination en série des Jeux Olympiques de Tokyo peut souffler. Il sera là demain pour les demi-finales du 800 mètres.
Aurélien Tiercin, merci. Envoyé spécial d'RMC à Eugene aux États-Unis. Un mot pour finir des championnats du monde d'escrime. Enzo Lefort conserve sa couronne de champion du monde du fleuret. Troisième médaille d'or tricolore après celle d'Isaora Tibus et de Romain Canon.
C'était le journal de Rémi. Rémi, vous restez avec nous ?
Allez.
On va jouer tous ensemble.
RMC,
la voix du jour.
Nous vous offrons toute la semaine un sac de plage et une crème protectrice hydratante Caresse Source d'eau de Kirinès. Vous allez entendre une voix, c'est facile ce matin, hein. Vous allez voir, c'est dans l'actualité. Le premier qui nous appelle au 32-16 pour nous dire qui c'est à gagner. Vous êtes prêt, Rémi ?
Allez, je suis prêt, je vous écoute.
Vous n'avez pas le droit de jouer, vous, hein, mais vous allez quand même mettre votre énergie au service de nos auditeurs. Allez, c'est parti.
Il n'y a pas de petits gestes. Chaque énergie que nous sommes capables d'économiser aujourd'hui, c'est de l'énergie dont nous serons sûrs de pouvoir disposer l'hiver prochain. Ces gestes du quotidien, c'est bon pour nos réserves et évidemment, c'est bon pour la planète.
Qui nous dit qu'on va devoir faire des petits gestes pour économiser de l'énergie ? Le 32-16, si vous savez qui c'est. Rémi, vous avez deviné ou pas ?
On l'a beaucoup entendu et beaucoup vu ces derniers mois.
Bon, et ce sera le thème de notre premier débat dans un instant. Est-ce que c'est aux citoyens de faire des efforts pour économiser de l'énergie ? Appelez-nous pour réagir. Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio.
RMC.
5h-6h, Charles Matin, Pierrick Bonneau.
RMC, jusqu'à 6h, Charles Matin,
Pierrick Bonneau.
5h10, éteindre la lumière ou débrancher la box quand on n'est pas là. Les petits gestes du quotidien, est-ce que ça va suffire pour faire des économies d'énergie ?
C'est la question du jour sur RMC.
Vous nous appelez au 32-16 pour nous donner votre avis et en débattre avec nous. Le gouvernement appelle les Français à la responsabilité, à faire des petits gestes sans contrainte pour limiter notre consommation d'énergie. Parmi les gestes cités par le porte-parole du gouvernement, débrancher les prises électriques quand on part en vacances, couper le wifi, baisser un peu la clim ou éteindre les lumières dans les pièces inutilisées. Êtes-vous prêt à ce qu'on appelle la sobriété énergétique ? Lucie Pascanet et Martin Cadoret ont posé la question à des Parisiens. Reportage.
Couper le courant, réduire le chauffage, ces petits gestes évoqués par Olivier Véran font déjà partie des habitudes de ces Parisiens.
J'ai pas attendu la situation dans laquelle on est pour les faire. C'est tout ce qui est éteindre les lumières dès qu'on n'est plus dans une pièce.
On fait attention à pas trop chauffer, puis on met un pull, quoi.
Là, on part bientôt en vacances. On s'est dit, bon, on va tout débrancher les frigos et tout.
Quoi qu'il y a peut-être quelques efforts à faire encore.
Débrancher les prises, après, tout ce qui est téléviseur et compagnie, je vous avouerai que non, je ne fais pas ça.
On n'y pense pas forcément.
Une demande de sobriété qui laisse parfois dubitatif.
Tous les petits gestes sont bons. Mais malgré tout, on n'a pas l'impression que ça puisse faire quelque chose au quotidien.
C'est un peu remettre de la faute sur le consommateur. C'est pas vraiment le fait d'éteindre sa lumière une demi-heure qui va vraiment faire un gros changement.
Et s'il fallait faire plus ? Thierry Salomon est le président de l'association Négawatt.
C'est évidemment des gestes qu'il faut faire, mais ils sont très limités. Il faut, à notre sens, aller beaucoup plus loin. Par exemple, on pourrait très bien imaginer que le covoiturage soit largement plébiscité lorsque vous faites un trajet avec deux personnes au lieu d'une, ça revient à diviser par deux la consommation d'énergie.
Mais Thierry Salomon reconnaît que cela ne sera pas suffisant.
Si on a un regard qui zoome trop sur uniquement le petit comportement individuel, il est clair qu'on n'y arrivera pas du tout.
Si chaque personne respectait ses petits gestes du quotidien, cela ne compterait que pour un quart des engagements de la France en matière de réduction de notre empreinte carbone.
Le reste, c'est dans les mains d'acteurs systémiques, comme l'État ou comme des grandes entreprises multinationales.
Justine Ripoll est responsable de campagne pour l'association écologiste Notre Affaire à Tous.
C'est pas aux gens, en fait, de prendre des douches froides en hiver. Le meilleur exemple, c'est vraiment la rénovation thermique du bâtiment. Si on avait investi, on n'aurait pas besoin de faire tant d'économies d'énergie, puisqu'en fait, on serait déjà dans un modèle où on serait plus sobre en énergie.
Pour la responsable associative, c'est à l'État d'agir après avoir été condamné deux fois par la justice pour inaction climatique.
Et s'il faut plus que jamais faire des économies d'énergie, ce n'est pas seulement pour sauver la planète, c'est aussi parce que la Russie risque bien de nous couper le gaz à l'automne. Hier, la Commission européenne a annoncé un plan d'urgence pour freiner notre dépendance au gaz russe. Bruxelles propose que chaque pays européen réduise de 15% sa consommation de gaz russe, sauf que nous n'avons pas tous la même dépendance à la Russie. Au sein de l'UE, Phukwin Nguyen est chercheur en politique énergétique à l'Institut Jacques Delors.
Les pays seraient touchés de manière diverse, puisque les dépendances ne sont pas les mêmes. Autour des 1% de PIB en moins pour la France et pour l'Italie, par exemple, on serait dans une fourchette vraiment très, très large, entre, on va dire, 4 et 6 points de PIB. Donc, c'est quand même très conséquent. Ce qu'il faut comprendre, évidemment, c'est que chaque pays a intérêt dès à présent à mettre en place cette solidarité pour éviter d'en arriver à un scénario où on n'est pas prêt et on subit de plein fouet le bon vouloir de Vladimir Poutine.
Que faire pour économiser l'énergie? Est-ce à nous de faire des petits gestes? On vous attend au 32-16. Dites-nous ce que vous en pensez. 5h14.
RMC s'engage pour vous.
Bonjour Johanna Chabas.
Bonjour.
RMC continue de s'engager pour vous et revient tout l'été sur les dossiers de cette saison. Johanna, ce matin, on reparle des algues vertes. Vous aviez été contactée par des habitants d'une commune des Côtes d'Armor. Ils se plaignaient de ne plus pouvoir accéder à leur plage parce qu'elle était infestée par ces algues toxiques. Et ils voulaient plus de transparence quant à l'air qu'ils respirent.
Oui, des habitants de Houille, à côté de Saint-Brieuc, nous écrivent en mars. À ce moment-là, ça fait 8 mois que leur plage est fermée, pleine d'algues vertes qui pourrissent sur le sable. Quand ces algues se putréfient, elles dégagent un gaz très toxique, potentiellement mortel. C'est l'hydrogène sulfuré. Et ce que demandent les riverains à l'époque, c'est que tout le monde puisse avoir accès en temps réel aux mesures faites au bord de la plage et ainsi connaître le taux de concentration de ce gaz dans l'air qu'ils respirent. Après notre intervention, le président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, Ronan Kerdraon, nous avait promis de répondre aux attentes des habitants.
L'engagement que je peux prendre, c'est qu'on facilitera la publicité et la transparence donc de l'ensemble de ces mesures. Dès que les mesures commencent, elles seront publiées, jour par jour. Voilà. Donc les riverains, les associations, tout le monde aura la possibilité d'avoir ces indications.
Est-ce que l'engagement a été tenu, Johanna ?
Alors, ça a pris un peu de temps, mais oui, depuis le début du mois de juillet, les mesures quotidiennes sont en accès libre sur le site d'Herbraise, l'observatoire de la qualité de l'air en Bretagne. 8 capteurs supplémentaires ont même été posés pour un meilleur suivi. Pour Annie Le Guillou, la présidente de l'association Alto Marée Verte, c'est évidemment une victoire, mais son combat est loin d'être fini.
Nous allons continuer à observer de très près la façon dont sont prises en compte ces résultats de mesure. Des courbes de résultats de mesure sont très fluctuantes d'un jour à l'autre, voire même d'une heure à l'autre. Il peut y avoir des pics très importants. Le problème des marées vertes ne pourra pas être résolu un tant soit peu sans prendre à bras le corps la question agricole. On rappelle toujours que 95% des nitrates qui nourrissent les algues vertes sont d'origine agricole. Donc mesurer la pollution, c'est bien, mais prévenir la pollution, c'est mieux.
Alors la plage est recouverte d'algues vertes aujourd'hui. Vous l'avez constaté sur place il y a moins de 48 heures, Johanna. Qu'est-ce qui est envisagé pour prévenir la pollution ?
Alors en Bretagne, un nouveau plan de lutte contre les algues vertes doit être adopté prochainement, d'ici le mois de décembre. Ce plan devrait contenir des aides directes aux agriculteurs pour les aider à changer leur méthode. Car vous l'avez entendu, la pollution provient essentiellement de l'agriculture. Du nitrate qui est dans l'engrais utilisé dans les élevages de porcs se retrouve dans les cours d'eau et finit sur les plages. Étienne Guillet est sous-préfet. Il a été nommé par le gouvernement pour accompagner la transition agroécologique de la Bretagne.
Le volet préventif qui est le cœur de ce plan, à la fois en termes de moyens, à la fois en termes d'ambition, va renforcer l'aspect réglementaire lié aux pratiques agricoles pour permettre de réduire clairement et sensiblement et de réengager une baisse des arrivées des flux de nitrates dans les cours d'eau. Et donc aller encore plus loin, ça nécessite effectivement des engagements exploitation par exploitation pour aller chercher des nitrates qui nous manquent encore et donc arriver à réduire encore plus ces flux.
En attendant, hier, sur une des plages de Houille, le taux d'hydrogène sulfuré a dépassé le seuil d'alerte, ce qui engendre sa fermeture.
Johanna Chabas, merci. RMC s'engage pour vous. C'est désormais tous les matins à 5h15 sur RMC. Notre débat du jour, notre question du jour, est-ce aux Français de faire des efforts pour économiser de l'énergie ? J'accueille Rémi au 32-16. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va très bien, et vous ?
Ça va super, merci. Vous nous appelez de Grenoble ce matin. Alors la question, vous la connaissez, la réponse, quelle est-elle selon vous ? Est-ce que c'est aux Français de faire des économies d'énergie ?
Oui, c'est
des petits
Français,
gestes pour sauver la planète notamment.
C'est à tout le monde en fait de faire des efforts. Seulement, si c'est que le citoyen qui éteint sa lumière, qui coupe son wifi, qui débranche ses prises un petit peu en vacances, ce qui sont des choses qui devraient être des réflexes maintenant, on est d'accord. Hein. Mais ça ne suffira pas. Je veux dire, c'est toute notre société qui doit commencer à réfléchir comme ça. Genre, il y a beaucoup de choses. Moi, j'habite à Grenoble, et quand je vois le nombre de façades qui sont de façades de magasins, de choses qui restent allumées la nuit, en pagaille, les bureaux où je travaille pour faire le ménage, par exemple, avec tous les ordis, les chauffages, les clims qui restent allumés toutes les nuits, tous les week-ends, même parfois. Enfin, je veux dire, vous pouvez demander aux gens de tirer moins la chasse, d'éteindre la lumière le plus possible, etc.
Alors, c'est prévu. Passe, ouais, c'est prévu dans le plan qui va être présenté dans les prochaines semaines, hein, que les commerces, notamment, éteignent les vitrines à partir d'une heure du matin. Ce qui est déjà la règle, hein, mais ce qui n'est pas vraiment appliqué.
Exactement, parce que y a jamais personne qui est contrôlé. Je veux dire, c'est des trucs, c'est une règle sur le papier, mais tout le monde. Excusez-moi, tout le monde s'en fout.
C'est-à-dire, il faut contraindre du coup les commerces, selon vous, les entreprises, à faire plus d'efforts.
Ah non, mais enfin, il faut que tout le monde se mette dans la tête que bientôt, ce sera plus un choix. C'est-à-dire, parce que c'est ce que j'ai écrit dans mon message. Mais ce gouvernement qui traitait les gens, qui prenait ces choses-là d'amiche il y a 6 mois et qui maintenant se mettent à paniquer parce que les Russes se sont énervés. Enfin, c'est gentil, hein, mais faudrait peut-être se mettre un petit peu à la page en même temps que l'écologie et pas après, en fait. Parce que chaque fois, c'est quand on commence à être pris à la gorge et par notre indépendance énergétique et par l'écologie qu'on commence à se dire « Oh, vite éteignez la lumière !» Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Faut qu'on avance toute la société, hein, pas juste les mecs qui tirent la chasse, quoi.
Le message est passé, Rémi, en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée à Grenoble et puis un bel été. Vous travaillez là ce matin ?
Oui, bien sûr.
Bon, bonne journée à vous et à très
merci,
vite.
Vous aussi.
À très vite. Vous continuez à réagir, hein, tous ensemble au 32-16. On débat ce matin de la sobriété énergétique. Est-ce que c'est aux Français de faire des efforts ? Le 32-16, RMC pour l'appli onglet Direct Studio. Les histoires de Quentin dans un instant.
RMC.
5h-6h. Charles Matin. Pierrick Bonneau.
5h21 dans l'actualité ce matin, Emmanuel Macron qui promet des avions supplémentaires contre les feux de forêt. Le chef de l'État était aux côtés des soldats du feu hier après-midi à la Teste de Buch en Gironde.
Il va falloir replanter et rebâtir. Lancer un grand chantier national pour pouvoir replanter cette forêt. C'est un immense chantier.
Replanter la forêt et des avions supplémentaires. Donc, une bonne nouvelle ce matin, les deux incendies girondins ne progressent plus. La suite des discussions à l'Assemblée sur le projet de loi pour protéger le pouvoir d'achat des Français. La revalorisation de 4% des retraites et des prestations sociales est votée, tout comme la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Cette mesure a fait l'unanimité dans les rangs de l'Assemblée. Pendant ce temps-là, le Sénat, dominé par la droite, donne son feu vert au projet de loi sanitaire en rétablissant une mesure qui avait été supprimée par les députés, le retour au contrôle sanitaire aux frontières en cas d'apparition d'un nouveau variant. La météo. Anthony Kazmarek, il fait beau, c'est un peu moins chaud.
Oui, exactement. Retour au calme avec du soleil pour quasiment tout le monde aujourd'hui. Quelques débordements nuageux vers les Hauts-de-France, l'Île-de-France et le Grand Est dans l'après-midi avec éventuellement une ou deux gouttes. Et puis les températures seront encore une fois chaude dans le sud-est, c'est là où la vigilance canicule va se maintenir, avec dans ces régions 32 à 38 degrés, mais ailleurs ce sera une chaleur raisonnable, estivale, normale, de saison et ça fait du bien. 29 à Strasbourg, 28 à Paris, 24 pour Abbeville, 23 à Brest et à Lille.
Merci Anthony, les petites histoires de Quentin.
Les insolites de Quentin.
Bonjour Quentin Dubois.
Bonjour.
Vous nous emmenez en Chine ce matin, où les agriculteurs ont un nouveau moyen de paiement pour acheter un logement.
Oui, l'immobilier en Chine en ce moment, c'est pas la folie. Le marché chinois a fortement ralenti. Les conditions pour obtenir un prix ont été durcies, que ce soit pour les acheteurs ou les promoteurs. Résultat, il y a beaucoup trop de constructions. Personne pour acheter, donc logement vide et société au bord de la faillite.
C'est pour ça que les promoteurs en difficulté ont commencé à réfléchir à de nouveaux moyens de paiement un peu particuliers. hein.
Oui, s'ils font ça, c'est qu'ils n'ont pas vraiment le choix puisqu'ils ne sont pas autorisés à baisser les prix de vente des logements. Et jusqu'à présent, les seuls cadeaux qu'ils pouvaient faire pour inciter les gens d'acheter, c'était d'offrir une place de parking ou offrir les finitions à l'intérieur de l'appartement. Mais c'était sans compter sur l'ingéniosité de ces promoteurs qui, pour contourner un peu les règles, ont eu l'idée d'accepter comme moyen de paiement des fruits et des légumes. Pastèques, pêches et autres produits agricoles sont désormais acceptés pour payer une partie du logement, uniquement une partie du logement ou pour servir d'apport.
S'ils proposent de payer avec des fruits et légumes, Quentin, c'est précisément pour attirer ces agriculteurs dont on parlait.
Et oui, puisque le marché dans les zones rurales attire peu, alors qu'il représente plus de la moitié du marché total. Dans les campagnes chinoises, plein de logements ont été construits, mais sont vides. Ils proposent donc aux agriculteurs de payer avec leur production, qu'ils achètent au-dessus du prix du marché pour les attirer. Et ça leur permet d'offrir des remises plus importantes sur ces maisons ou appartements que celles autorisées par les gouvernements locaux.
Bon, c'est ingénieux, mais il y a déjà eu des ventes, ou plutôt des trocs.
Et ça a attiré pas mal de clients, oui. Cette opération a été lancée à la base par le constructeur de maisons Central China Management, qui voulait aider les agriculteurs et producteurs d'ail de la région en leur facilitant l'accès à la propriété. Résultat, une trentaine de logements ont été vendus depuis le lancement de la campagne et l'entreprise a reçu, tenez-vous bien, entre fin mai et début juin, donc en quelques semaines, près de 430 tonnes d'ail. Ça rigole pas.
Ah oui, ça a dû donner des idées, j'imagine, à d'autres sociétés.
Voyant le résultat positif de cette campagne, d'autres se sont lancés dans le business en acceptant des fruits et légumes selon les productions de la région. À Nanjing, par exemple, un promoteur a déclaré qu'il acceptait comme acompte des cargaisons de pastèques d'une valeur pouvant aller jusqu'à 100 000 yuan, soit un petit peu plus de 14 500 euros. Blé, ail, pastèque, pêche permettent donc aujourd'hui d'être propriétaire en Chine. À voir si un jour cette idée arrive en France. Nous sommes la 8e puissance agricole. Les producteurs français pourront peut-être payer une partie de leur maison en patates et même en vaches, pourquoi pas si l'idée évolue. Le marché de l'immobilier en France étant en repli ces derniers mois.
Alors heureusement, on n'en est pas là.
Hein.
La crise de l'immobilier en France, ce n'est pas encore une réalité. Rien à voir avec le marché chinois, fort heureusement pour l'instant. Merci beaucoup Quentin Dubois. 5h26, nous avons un gagnant.
RMC, la voix du jour.
Un gagnant qui a reconnu ce matin la voix du jour sur RMC. Bonjour Valentin.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Vous nous appelez, je crois, de Sevran en Seine-Saint-Denis.
Effectivement, Sevran dans 93.
Allez, on réécoute la voix du jour et vous nous dites qui c'est.
Il n'y a pas de petits gestes. Chaque énergie que nous sommes capables d'économiser aujourd'hui, c'est de l'énergie dont nous serons sûrs de pouvoir disposer l'hiver prochain. Ces gestes du quotidien, c'est bon pour nos réserves et évidemment, c'est bon pour la planète.
Alors, qui est cette personne qui nous dit que les gestes du quotidien, c'est bon pour la planète?
Alors, c'est le porte-parole du gouvernement, Monsieur Olivier Véran.
Oh, vous avez même sa nouvelle fonction, bah dites donc. Eh ben, parce qu'il était avant ministre de la Santé, évidemment. C'est la bonne réponse. Merci beaucoup. Merci, Valentin.
Et bravo à vous. Une bonne journée.
Restez avec nous. Nous vous offrons un sac de plage. Partez pas tout de suite. Et une crème protectrice hydratante Caresse Source d'eau de Kirinès. Simplement pour répondre aux porte-parole du gouvernement. Vous en pensez quoi, vous? C'est à nous de faire des efforts?
Je pense qu'il a peut-être pas tort.
Ouais.
C'est à tout le monde de faire des efforts.
À tout le monde, y compris les entreprises, y compris l'État, c'est ça le message.
Voilà, toutes ces personnes qui contribuent à...
Qui contribuent à quoi? Allô? Oui, on vous écoute, qui contribuent à...
Oui, je disais que toutes ces personnes qui font partie de la société, hein, que ce soit les entreprises ou nous-mêmes.
Vous faites déjà des efforts, vous, au quotidien, Valentin?
Au quotidien, nous faisons des efforts, nous essayons de faire, d'ailleurs.
Ouais, vous éteignez la lumière quand la pièce est vide, vous débranchez la box?
Pas toujours évident, mais on le fait.
Bon. Merci beaucoup, en tout cas, et bravo, vous avez gagné ce sac de plage donc et cette crème hydratante. Merci beaucoup, Valentin. Très bonne journée à vous. Dans un instant, la météo et le journal sur RMC.
RMC. 5h-6h, Charles Matin, Pierrick Bonneau.
Bonjour Thibault.
Bonjour Pierrick, bonjour à tous. En Gironde, Emmanuel Macron annonce un grand chantier national pour replanter les forêts détruites par les feux, l'un des plus grands de notre histoire, explique le chef de l'État. À la une également ce drame dans l'Ain, un forcené a été abattu par les forces de l'ordre hier après avoir tué 5 membres de sa famille. Et puis Tadej Pogacar remporte la 17e étape du Tour de France. Le maillot jaune reste sur les épaules de Jonas Vingegaard.
La prudence reste de mise ce matin, mais la situation s'améliore sur le front des incendies en Gironde.
Pour la deuxième journée de rang, les flammes des deux feux qui frappent le département depuis plus d'une semaine ne progressent plus. Des feux dévastateurs qui ont à cette heure ravagé plus de 20 000 hectares de végétation. Emmanuel Macron était sur place hier à la rencontre des soldats mobilisés, des soldats du feu mobilisés sur place. Occasion pour le chef de l'État de marquer son soutien aux pompiers, Romain Cluzel.
Une fois le feu maîtrisé, Emmanuel Macron a une priorité.
Il va falloir replanter et rebâtir. Lancer un grand chantier national pour pouvoir replanter cette forêt. C'est un immense chantier.
Les campings seront également reconstruits avec l'aide de l'État, promet le président. Une annonce vue d'un bon œil par Stéphane Loniewski, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Gironde.
Reconstruire les campings, en termes économiques pour la région, c'est quelque chose qui est indispensable. Parce qu'ils sont situés sur un secteur privilégié, qui est la dune du Pilat, et qui attire énormément de monde à travers la France et à travers le monde entier.
Dans la lutte contre les incendies, Emmanuel Macron admet qu'il faut augmenter le nombre de canadairs, mais sans donner de nombres précis. C'est un premier pas pour Éric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers.
Sauf qu'il manque un pendant, c'est celui au niveau du terrestre, en fait. De manière à pouvoir, un, engager beaucoup plus de sapeurs-pompiers volontaires, évidemment de sapeurs-pompiers professionnels, et d'investir dans des nouveaux véhicules et dans de nouveaux matériels.
Une augmentation de moyens réclamée aussi par deux associations d'élus, notamment pour améliorer l'entretien des forêts.
Et dans le Finistère, les feux sont quasiment fixés. Plus de 1700 hectares ont brûlé depuis le début de la semaine au Mont d'Arrée. Deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Quimper, l'une d'elles pour destruction volontaire par incendie. L'examen du projet de loi pouvoir d'achat se poursuit à l'Assemblée nationale. Tard dans la nuit, les députés ont voté en première lecture la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Dans le même temps, le Sénat, dominé par la droite, donne son feu vert au projet de loi sanitaire, un texte qui entérine au 1er août prochain l'expiration des régimes d'exception mis en place pour lutter contre l'épidémie Covid. Les sénateurs rétablissent au passage le contrôle sanitaire des voyageurs, une mesure préalablement amputée par l'Assemblée nationale. Une enquête maintenant, enquête que vous dévoile RMC ce matin. Chaque semaine, nous ingérons en moyenne 5 grammes de plastique. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent d'une carte de crédit. La faute aux bouteilles d'eau Garance Munoz. L'association Agir pour l'environnement révèle que 78% de ces bouteilles contiennent de microparticules de plastique.
Sur 9 bouteilles d'eau testées, 7 sont contaminées aux microplastiques. Or, ceux-ci ne se dégradent pas une fois dans notre organisme. Bien au contraire, explique Nathalie Gontard de l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
Notre corps n'est pas équipé pour s'en débarrasser. Les enzymes ne vont absolument pas attaquer ce plastique qui va perdurer jusqu'à notre mort. Et ensuite, créer des déséquilibres, des destructions cellulaires, des cancers.
Même si ces dangers sont encore difficiles à chiffrer, le principe de précaution devrait être respecté, alerte Stéphane Kerkhoff, directeur d'Agir pour l'environnement.
On assiste à des industriels qui continuent à mettre sur le marché massivement, sans jamais s'intéresser aux effets potentiels de la migration des microplastiques.
En France, ce sont presque 9 milliards de litres d'eau en bouteille qui sont vendus chaque année, un scandale sanitaire d'après lui.
On demande à ce que les publics sensibles, femmes enceintes, bébés, enfants, ne soient plus exposés à de l'eau embouteillée en plastique. On a vu que d'ailleurs dans notre analyse, c'est une bouteille destinée aux enfants qui est concentrée le plus de microparticules et une interdiction générale des bouteilles plastiques et des plastiques à usage unique d'ici la fin du quinquennat, c'est-à-dire 2027.
Les buveurs d'eau en bouteille concentrent 22 fois plus de microparticules que les buveurs d'eau au robinet.
RMC 5h34, Thibaut Texer. Un drame dans l'Ain, l'une des plus importantes tueries familiales de ces dernières années en France.
Un homme de 22 ans a été abattu hier par le GIGN dans la commune de Douvres. Ce dernier était retranché dans une maison depuis mardi soir, une maison dans laquelle les forces de l'ordre ont retrouvé les corps sans vie de 5 personnes. Les précisions de Vincent Chevalier pour RMC.
Prévenu d'une prise d'otage par la gendarmerie locale, le GIGN est arrivé tôt hier matin à Douvres. Plusieurs tentatives de négociation sans succès. L'assaut est finalement lancé peu avant midi. À l'intérieur de la maison, les gendarmes retrouvent le forcené armé d'un sabre et d'un fusil et équipé de protection. Malgré les sommations, le jeune homme de 22 ans ne se rend pas. Il est finalement neutralisé par les autorités. Les gendarmes retrouvent les corps de cette famille recomposée. Le père et sa nouvelle compagne, deux adolescents de 17 et 14 ans et un enfant de 5 ans. Une famille arrivée dans le village un an plus tôt, décrite comme discrète par ses voisins.
Plutôt sympa, quoi. Ouais, ils bricolaient beaucoup leur maison et tout, c'était sympa. Ouais. Ça fait des frissons un peu, là. Ça fait... ouais, c'est terrible. Ouais.
Une famille tout à fait normale. Il n'y avait rien de particulier, très gentil, très poli, souriant, ou... c'est choquant.
L'auteur des faits aurait souffert de troubles psychiatriques. Deux enquêtes sont ouvertes, l'une pour homicide volontaire, l'autre concerne l'usage des armes par les gendarmes.
À noter par ailleurs que deux enfants restent hospitalisés ce matin à Rennes, blessés par des poneys dans un centre équestre de Vitré. Une insuffisance de l'encadrement est à cette heure pointée par les enquêteurs. Et puis 14 départements toujours en vigilance orange de la canicule ce matin, département de l'Est de la vallée du Rhône et du bassin méditerranéen. Tadej Pogacar a tout tenté et s'impose à Péragude à l'issue de la 17e étape du Tour de France. Pour autant, le Slovène échoue à faire tomber le maillot jaune. Jonas Vingegaard, deuxième de l'étape. Une journée compliquée pour les Français aussi, à l'instar de Thibaut Pinot. Échappé, il termine finalement la 31e place.
Je suis mauvais, je suis pas bon. Je voulais prendre de l'avance pour basculer avec les meilleurs l'avant-dernier col, mais ça m'a lâché et j'ai rien pu faire, donc je suis déçu. Je sentais que mes forces commençaient à faiblir, donc je préférais donner mes dernières forces pour David, mais c'est vraiment frustrant. Hein. Il manque plein de choses, je suis tellement loin de mon niveau là, c'est... Personnellement c'est compliqué et je sens que j'apporte rien à l'équipe, donc pour moi c'est dur.
Dernière étape de montagne ce jeudi entre Lourdes et Hautacam, trois cols au programme dont deux hors catégorie, événement à suivre sur RMC dans l'intégral tour à partir de 14h. Toujours pas de victoire donc sur le Tour de France, à l'inverse des mondiaux d'escrime. Troisième médaille, troisième titre pour les Bleus en Égypte avec la victoire hier d'Enzo Lefort au fleuret.
Je réalise pas ce qui se passe là. Gagner encore une fois les championnats du monde et de cette façon avec des matchs si serrés, notamment le tableau 32, j'étais mené 10-2. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Il a fallu que mon coach me remette dans le bon sens. Et après gagner la demi-finale et la finale 15-14, c'est fou. C'est vraiment fou. Je pense qu'il va bien me falloir 24 heures pour réaliser l'ampleur de ce que j'ai fait.
Et puis un mot de foot, le PSG a remporté hier son premier match de préparation au Japon face au Kazaoui frontal de Buzyn. Licia Foudala vous en parlera dans un instant.
Les courses sur l'hippodrome de Longchamp ce soir, Thibaut.
Rendez-vous à 20h15 sur RMC. Découverte, le 10 Astrologia et le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 11 Sparklia, le 10 et le 11.
Thibaut Texer, vous restez avec nous, Thibaut, dans un instant, dans moins de 5 minutes. Une mesure pour faciliter vos résiliations d'abonnement, un bouton unique sur Internet. C'est la nouvelle idée du gouvernement pour protéger votre pouvoir d'achat. Bonne idée ou pas? Et puis le gouvernement appelle les Français à multiplier les petits gestes pour faire des économies d'énergie. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est aux Français de faire des efforts? Venez en débattre avec nous. Le 32-16 est ouvert. L'appli RMC, onglet direct, studio également. Mais tout de suite à Story Sport.
La Story Sport.
Avec Licia Foudala. Bonjour Licia.
Bonjour Pierrick, bonjour tout le monde.
Le PSG est toujours en tournée au Japon et hier les Parisiens ont disputé leur première rencontre à Tokyo. Victoire 2-1 face au Kawasaki frontal. Sur place, il y en a un qui fait déjà l'unanimité.
Ce n'est pas Kylian Mbappé, mais Christophe Galtier, le technicien français, est en pleine opération conquête, objectif convaincre qu'il est au niveau des plus grands du métier. Au Japon, le PSG a reçu un accueil de rockstar et lui aussi, tout sourire avec Sergio Ramos, Neymar détendu après la rencontre et aussi en conférence de presse où il s'est fait une copine, Madame la traductrice, qui prenait trop de temps à son goût pour relayer ses propos en japonais.
J'ai dit tout ça. Merci.
Mais je réponds à la première. C'est plus facile.
Vous
pouvez répéter la question? Non.
C'est génial.
Quel humour, il sait vraiment tout faire ce coach jongleur professionnel entre sérieux sur le terrain et dérision en dehors.
Cette victoire hier, elle a mis tout le monde d'accord.
Devant 80 000 spectateurs, il s'est montré proche de ses hommes, de son staff, fin conseiller. Alors après ce match test, il est comment ce groupe, Christophe?
Extraordinaire. C'est un groupe qui travaille bien, même très bien. Mais si vous n'avez pas d'ego, vous n'avez pas de champion. Si vous n'avez pas de champion, vous ne gagnez pas.
Et si vous ne gagnez pas, paf, viré. Et oui, donc pour éviter cela, il s'implique à 100% avec eux.
J'ose espérer qu'ils ne sont pas dans un jeu de séduction, parce que je ne suis pas dans un jeu de séduction. Je suis dans la découverte de ce groupe.
Ses intentions sont claires, il veut une relation sérieuse qui s'inscrit dans la durée. C'est pas une amourette comme à Nice qu'il recherche, mais un mariage. Alors il nous fait le lover, mais il n'en a pas oublié sa rigueur légendaire pour autant. Et cette méthode Galtier, dure à l'intérieur et fondant à l'extérieur, plaît à tout le monde, à commencer par son latéral gauche, Juan Bernat.
Tout se passe très bien avec le nouvel entraîneur. Je suis content du travail que nous avons effectué jusqu'à maintenant. C'est vrai que ça ne fait que deux semaines, mais nous travaillons très bien et les matchs le reflètent. Ça me rend très heureux.
Bon, on est loin, Licia, de l'image de Pochettino.
Ah oui, lui qui était considéré trop laxiste, avec beaucoup moins de caractère. Là, non seulement l'ancien Stéphanois a l'attitude, mais aussi le travail qui parle pour lui. Notre envoyé spécial, le génialissime Arthur Perrault, me confiait tout à l'heure que Galtier préparait ses séances d'entraînement sur le terrain au moins une heure avant, avec ses adjoints, pour que tout soit ajusté, millimétré. Le souci du détail et l'envie de bien faire, rien que pour ça, les Parisiens peuvent lui dire...
Arigato.
Arigato, merci, et c'est bien parti.
On a pris des cours de japonais ce matin avec vous. Merci, Licia Foudala.
Merci à vous.
Vous nous appelez au 32-16 pour débattre ce matin d'une mesure examinée en ce moment à l'Assemblée pour protéger notre pouvoir d'achat, faciliter la résiliation de tous nos abonnements en ligne. Le gouvernement veut créer un simple bouton pour résilier. Si on peut s'engager en trois clics, on doit pouvoir se désengager en trois clics, explique Olivia Grégoire, la ministre déléguée au PME, au commerce, à l'artisanat et au tourisme. Et oui, car se désabonner est parfois compliqué, un calvaire même parfois. Lucie Rispal.
Résilier son abonnement de 2 ans à une plateforme de diffusion de contenu en ligne, un casse-tête pour Alain Kinnick, auto-entrepreneur.
Faut passer par un bouton, faut imprimer le papier en question, faut l'envoyer, etc. Je l'ai fait en plus en lettre commandée avec le bureau de réception, histoire d'avoir une preuve. Je leur ai envoyé en plus un mail. Moi, j'ai commencé un peu à prendre peur, donc j'avais fait aussi à côté le nécessaire auprès de ma banque pour justement faire opposition au prélèvement. Donc voilà, c'est galère.
Après toutes ces démarches, le trentenaire parvient finalement à ne plus être débité. Il regrette pourtant que l'arrêt d'un abonnement ne soit pas plus simple à l'ère du numérique.
Il y a d'autres services, il y a d'autres opérateurs ou même services en ligne où justement, il y a justement que le bouton, on appuie sur résilier. Et puis voilà, un mois après, on est résilié, on n'en parle plus, quoi. Si on pouvait, en un claquement de doigts, en cliquant juste sur un bouton, se désabonner de tel ou tel service, ça serait génial, quoi.
Avec cette mesure, le gouvernement s'engage à rendre plus accessible la procédure. Résilier votre abonnement de façon immédiate, en un clic, ce sera possible. Certaines entreprises comme Amazon ont déjà emboîté le pas. Une bonne chose pour Antoine Autier, responsable des études à l'UFC Que Choisir.
À partir du moment où finalement il n'y a pas de cadre clair sur les modalités de résiliation, ben là il est certain que des professionnels pouvaient trouver un intérêt à mettre des bâtons dans les roues, on va dire, aux consommateurs. Évidemment, un consommateur qui peut facilement résilier, c'est un consommateur qui peut facilement partir. Plus on facilite les choses pour les consommateurs, plus ils peuvent rapidement faire jouer la concurrence et réaliser des économies. Et dans le contexte actuel, le temps, plus que jamais, c'est de l'argent.
Objectif, une fois la loi promulguée, une entrée en vigueur dès mars prochain.
Allez, faciliter les résiliations d'abonnement, c'est souvent une galère pour les Français. J'accueille Nicolas au 32-16. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Et la résiliation des abonnements, pour vous, c'est une galère ou pas ?
Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, vous voyez.
Ah, alors comment ça s'est passé ? C'était long, pénible ?
C'était pénible, oui, parce qu'il fallait envoyer une lettre commandée avec accusé de réception au 21e siècle.
Ah oui, d'accord. Donc pour vous, c'est une bonne mesure, en fait, ce clic, ce simple clic pour résilier un abonnement ?
Tout à fait, parce que franchement, on peut s'abonner facilement. Ça, je l'avais dit à l'opérateur en plus. On peut s'abonner facilement par téléphone, par internet, en distance. Ouais. On peut signer par internet, mais on peut pas faire la même chose pour résilier. Donc voilà. Et en plus, ils ont trouvé l'excuse qu'ils ont jamais reçu ma lettre commandée avec accusé de réception.
Et ça arrive souvent. Et puis au final, c'est de l'argent dépensé par les Français, c'est du pouvoir d'achat en moins pour les Français. Voilà pourquoi le gouvernement veut simplifier ces démarches. Nicolas, vous nous appelez de Brest. Oui. La question du jour ce matin, est-ce aux Français de faire des petits gestes ? Est-ce aux Français de faire des efforts pour économiser de l'énergie ? Votre réponse, c'est quoi ?
Moi, je serais normand. Oui et non. Pourtant, je suis breton. Mais c'est oui et non. Parce que il faudrait déjà que les industriels, au niveau des télés, par exemple, on ait le bouton marche-arrêt, déjà, qui n'existe plus.
Oui, vous voulez dire que la télé, le voyant rouge de la télé reste allumé tout le temps, quoi.
Voilà, tout à fait. Déjà. Donc, elle est toujours en veille.
La veilleuse,
consomme, quoi qu'il arrive. Oui. Et pareil, on a retiré sur toutes les boxes ou tout, le bouton marche-arrêt. Donc, tout reste à chaque fois en veille. Déjà, il y a un problème quelque part. Alors qu'avant, on éteignait la télévision, elle était éteinte.
Ouais.
Ça consommait beaucoup moins. Même si en débranchant, même si ça reste branché, ça consomme un tout petit peu encore. C'est comme, par exemple, quand on laisse un chargeur branché, même si on ne met pas un téléphone ou quoi que ce soit à brancher, on consomme quand même un petit peu d'électricité.
Ouais. Ouais, mais donc il faudrait tout débrancher. D'ailleurs, Olivier Véran, hier, lors de son compte-rendu du Conseil des ministres, nous dit qu'il va falloir débrancher la box quand on part en vacances, va falloir éteindre la lumière dans les pièces où il y a personne, va falloir débrancher les prises électriques. Yves, bonjour. Vous nous entendez, Yves ? Oui, vous nous entendez. Oui. Vous nous appelez de la Sarthe, près du Mans.
Oui, c'est ça.
Vous nous dites que ces habitudes-là, vous les avez déjà prises il y a un petit moment.
Ouais, j'ai pas attendu effectivement les conseils de Monsieur Véran. Donc c'est vrai que j'ai des prises avec un interrupteur. Donc effectivement, j'éteins régulièrement tous mes appareils qui ne servent à rien. Sauf que quand faut les démarrer, redémarrer, c'est un peu compliqué. Quoi. C'est ça un peu le
c'est
problème.
C'est pas prévu pour, en fait, on a l'impression.
Comment ?
Les appareils aujourd'hui qu'on a en 2022, j'allais dire les appareils modernes, mais les appareils dont on dispose aujourd'hui, les appareils électroniques, ne sont pas prévus pour être purement et simplement arrêtés, redémarrés si facilement. Quoi.
Ouais, c'est pour ça que je rejoins totalement l'intervenant tout à l'heure.
Nicolas, qui nous appelle de Brest.
Nicolas, qui est encore à l'antenne, je suppose.
Oui, il est là.
Je le rejoins complètement. C'est vrai que c'est des efforts qu'on doit faire, parce que ça permet de limiter notre facture. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi. C'est quand même des contraintes.
Ouais. William, qui nous écrit sur Facebook, nous dit que c'est au gouvernement de faire ce qu'il faut et d'imposer les panneaux solaires, notamment sur les maisons. Est-ce que c'est votre avis également, Yves ?
Oui, peut-être. Après, quid du recyclage des panneaux solaires ? Donc ça, c'est quand même une autre question. Alors, c'est pas très écolo, mais j'ai voyagé beaucoup, je voyage encore. Quand je vois en avion, quand je suis en avion et puis je voyage de nuit, et puis que je vois toutes ces villes éclairées, ça me désole, quoi.
Ouais, il faudrait éteindre la lumière, tout simplement, quoi.
Je pense qu'il y a des efforts à faire au niveau collectivité, au niveau des vitrines. On en parlait et vous en parlez aussi. Mmh. Et je pense qu'il faut pas constamment culpabiliser les Français, les utilisateurs. Bien sûr, on peut faire des petits efforts chacun de notre côté. Mais je pense qu'il y a des gros efforts à faire au niveau des collectivités, des villes, des commerces ouais. et des industries aussi. Quoi.
Nicolas, vous pensez comme Yves que le gouvernement nous culpabilise un petit peu là ?
Oui, nous culpabilise. Ça c'est vrai. Ça c'est pas un souci, hein, parce que moi je travaille de nuit, donc je suis rondé intervenant. Ouais. Je roule toute la nuit. Je peux vous dire que là où il y a le plus d'électricité, c'est justement les bâtiments publics.
Les administrations notamment, ouais.
Où les lumières restent allumées. Et ça, je peux vous dire, il y en a.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une image qui a fait le tour des réseaux sociaux hein, pendant l'interview du 14 juillet d'Emmanuel Macron, où l'interview avait lieu dans les jardins de l'Élysée en plein jour, et on voyait la lumière à l'intérieur de l'Élysée.
Oui, non, mais ça, je peux. Moi, je vais dans les sociétés. Quand je dois faire des fermetures, par exemple, le nombre de lumières qui sont allumées, d'ordinateurs qui ne sont pas éteints. Bon, nous, on n'y touche pas les ordinateurs, mais des lumières allumées en plein été. On se demande pourquoi.
Ouais. Yves, Yves, vous pensez également qu'il y a un peu d'hypocrisie de la part du gouvernement de nous appeler à faire des petits efforts comme ça ?
Oui. Enfin, je ne veux pas non plus les condamner, mais c'est vrai que les efforts, ils devraient commencer montrer l'exemple déjà. Et puis sur un autre sujet, je voudrais dire par rapport à la consommation, par rapport à la consommation de gaz que Poutine veut couper le gaz
à
l'Europe, à la France. Il faut savoir que le gaz c'est simplement la troisième consommation énergétique française. Hein,
oui, on consomme moins de gaz que nos voisins allemands, par exemple.
Oui, 40% l'Union européenne, mais nous c'est que 16%. Après le nucléaire, donc je renvoie un petit peu la balle aux écologistes, et puis le pétrole. Donc même si Poutine nous coupe le gaz, on a quand même de quoi pouvoir répondre.
On a d'autres réserves. Bah, merci à vous deux, merci beaucoup d'être venus au 32-16, Nicolas et Yves. Je vous souhaite une excellente journée et puis restez à l'écoute des RMC.
Bonne émission, Pierrick.
Bonjour, Angèle Châtelier.
Bonjour, Pierrick. Bonjour à tous.
L'été d'Angèle dans un instant au programme.
Les jeux de société. On va profiter des vacances pour en jouer.
Eh bien, à tout de suite.
RMC.
5h-6h, Charles Matin, Pierrick Bonnaud.
6h-10, dans l'actualité ce matin, les députés qui ont débattu toute la soirée du projet de loi pour protéger le pouvoir d'achat des Français, la revalorisation de 4% des retraites et des prestations sociales est votée, tout comme la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Cette mesure a fait l'unanimité dans les rangs de l'Assemblée. Pendant ce temps, le Sénat, dominé par la droite, donnait son feu vert au projet de loi sanitaire en rétablissant une mesure qui avait été supprimée par les députés. Le retour au contrôle sanitaire aux frontières en cas d'apparition d'un nouveau variant. Et puis Emmanuel Macron promet des avions supplémentaires contre les feux de forêt. En visite hier à la Teste de Buch en Gironde, le chef de l'État a passé du temps avec les soldats du feu. Une bonne nouvelle, ce matin, les deux incendies girondins ne progresse plus. Anthony Kazmarek, c'est aussi peut-être parce qu'il y a moins de vent, moins de chaleur. Hein.
Exactement, un temps plus calme, plus raisonnable, plus estival, sans excès pour ce jeudi, avec toutefois quelques débordements nuageux sur la moitié nord, et notamment vers les Hauts-de-France, l'Île-de-France et le Grand Est, où une ou deux gouttes seront possibles en cours d'après-midi. Ailleurs donc du soleil, et des températures qui seront raisonnables, sauf dans le Sud-Est où 12 départements seront toujours en vigilance orange canicule. Il fera dans ces régions encore entre 32 et 38 degrés, mais ailleurs, chaleur normale, sans excès. 30 degrés à Nantes et Clermont Ferrand, 29 à Strasbourg et Biarritz, 28 à Paris et 23 pour Brest et pour Lille.
Et c'est l'heure de l'été d'Angèle.
L'été d'Angèle.
Angèle Châtelier qui nous revient en pleine forme de Lyon, où elle a passé du temps avec les Rolling Stones. Voilà, pardonnez-nous, vous ne pouviez pas être là hier matin, vous étiez avec Mick Jagger. L'été d'Angèle sur RMC, pendant tout l'été avec vous, on va écouter de la musique, partir en festival, regarder des séries et des films. Bref, vous nous présentez vos coups de cœur et vos bons plans. Et tandis que nous sommes ici en train de travailler très tôt le matin, vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être en vacances, et qui dit vacances dit jeux de société, vous avez quelques conseils pour nous, Angèle.
Oui, je suis la première à profiter des vacances pour jouer à des jeux de société, parce qu'on a le temps. Et pour être sûre de vous prodiguer les meilleurs conseils, eh bien, je suis allée demander à une spécialiste lesquels étaient les meilleurs pour cet été. Elle s'appelle Kathleen Boutier. Elle tient un bar à jeux de société à Paris qui s'appelle Le Nid, Cocon Ludique. Et selon elle, le jeu phare du moment s'appelle Secret Identity. Notez bien et laissons-lui nous expliquer les règles.
Secret Identity, c'est un petit jeu qu'on peut jouer de 2 à 8 personnes. Et le principe du jeu, c'est de réussir à faire deviner un personnage connu. Ça peut être un film, ça peut être un chanteur, ça peut être n'importe quoi. Du coup, le but, c'est d'utiliser un minimum d'images pour réussir à faire deviner un personnage. Par exemple, si on voulait faire deviner Harry Potter et qu'on a la chance d'avoir des lunettes et un petit éclair, ça passe bien. Mais si on n'a pas ça, faut se débrouiller avec le reste.
Alors, je sais pas pour vous, Pierrick, moi, pour faire deviner Harry Potter, je pense que je me ferai un éclair sur le front avec un stylo.
Ouais, ou des petites lunettes sur le nez.
Oui, des petites lunettes, c'est vraiment. Alors, c'est vrai que ce jeu Secret Identity est très bien parce qu'il peut se jouer à tout âge. Et pour vous le procurer, il faudra compter entre 20 et 25 euros. Mais si le budget est serré, vous pouvez toujours jouer à ce jeu de façon plus sobre et sans rien dépenser. En écrivant simplement sur du papier des noms de personnes ou de personnages, vous mettez tout ça sur votre front et on vous pose des questions pour trouver la personne que l'on est.
Ah, c'est sûr que pour ça, il ne suffit pas que d'un papier et d'un stylo. Bon, et je vois que vous tenez dans la main, un autre jeu avec vous qui s'appelle Kikafé.
Ouais, c'est un autre jeu que m'a conseillé Kathleen Boutier. Vous allez l'entendre, malgré ce nom très cocasse, Kikafé, eh bien, ce n'est pas que pour les tout-petits.
Alors, ça apporte très bien son nom, parce que le principe du jeu, c'est de trouver quel animal a fait caca en plein milieu du salon. Comment ça va se passer? C'est un jeu de rapidité et également de mémoire. Pourquoi il n'y a pas de gagnant, il n'y a que des perdants? Parce que quand on perd, on se prend un petit caca. Donc ça va être un jeu de rapidité, on va lancer une carte avec un animal dessus. Par exemple, là j'ai lancé un perroquet, et je vais dire ce n'est pas mon perroquet qui a fait caca, c'est un chat. La première personne qui va réagir va aller chercher son chat, va le poser dessus en disant ce n'est pas mon chat qui a fait caca, c'est une tortue. Et ainsi de suite. On se prend un caca quand on est encore la dernière personne à avoir encore des cartes en main, ou alors en annonçant un animal que plus personne n'a dans sa main. C'est plutôt pour les petits, mais beaucoup de gens au-delà de la trentaine, on va dire, jouent.
On n'aura jamais entendu le mot caca aussi souvent, aussi.
Mais c'est vrai, il s'appelle Kikafé. Donc voilà. Et l'avantage, c'est que ce jeu vous coûtera moins de 10 euros.
Alors, ça m'a troublé le mot caca 25 fois dans le même sens. Alors, c'est un jeu qui a l'air super, hein, mais qui n'a pas l'air très pratique pour la plage, effectivement.
Non, c'est vrai, puisqu'il y a plein de cartes, des petits bouts de carton. Donc, c'est plutôt à garder dans le mobil-home, au camping ou à la maison. Mais j'ai la solution si vous avez prévu de passer tout votre été les pieds dans le sable, eh bien c'est le célèbre jeu Uno en version plastifiée. Vous connaissez le Uno, j'imagine.
Oui, je connais, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'y ai pas joué.
Je vais vous rappeler les règles. Recouvrir la pioche par une carte d'une même couleur, du même chiffre ou du même symbole. Vous en avez 7 en main au départ, et dès qu'il ne vous en reste plus qu'une, vous devez crier Uno. Moi, j'ai voulu vous parler du Uno parce que c'est quand même un indémodable. Le Parisien le rappelait dans un article. Chaque minute, 17 jeux de Uno se vendent à travers le monde. Ça fait 10 millions par an. Ouais. Donc là, avec cette version plastifiée, vous pouvez en avoir un à la maison et un qui ne craint rien s'il prend.
J'ai entendu parler de Top Zen aussi.
Top Ten, effectivement, c'est un jeu d'ambiance. Ah, 10, hein, c'est oui, super. Qui vous coûtera une vingtaine d'euros. Vous avez un thème. Par exemple, quel objet fallait-il avoir lors du naufrage du Titanic? Du moins au plus utile. Vous devez en trouver 10. Et si vous avez toutes les réponses de le bonheur, voilà. C'est gagné, oui, très bien.
Merci beaucoup, Angèle. L'été avec Angèle. À demain sur RMC. À tout à l'heure, d'ailleurs, car vous revenez chez Sébastien Krebs. Bonjour, Sébastien.
Bonjour, Pierrick. Salut, Angèle. Bon, commencez pas tout de suite un jeu de société, non, parce que je vous attends, Pierrick. Pour démarrer, dans quelques secondes, on est ensemble jusqu'à 9h. Et vous avez la parole, évidemment, au 32-16. On va parler économie d'énergie, beaucoup, ce matin.
Il y a beaucoup de lumière dans votre studio, je trouve, d'ailleurs. Il va falloir éteindre,
peut-être. Oui, oui.
À tout de suite.
À tout de suite sur RMC.